20 часов в Париже.
В Париже, он идет к термометру.
Тогда, c'est rond, puis c'est beau, s'il est.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Action du Monde pour accompagner les temps forts de l'actualité de la semaine avec le regard des rédactions du Monde de Radio France Internationale. Ce soir, pour la rédaction anglophone, Christina Okello.
Good evening.
Matej Wiśniewski de la rédaction roumaine.
Bonasera.
Et Miguel Martins de la rédaction lusophone. Bonsoir à vous tous. En France, la campagne électorale se termine ce soir et après-demain, ce sera le deuxième tour du scrutin pour l'élection présidentielle. Alors qui de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron succédera à l'Élysée à François Hollande? Eh bien, si l'on en croit les tout derniers sondages, c'est le candidat d'En Marche avec 61,5 à 62% des voix contre 38 à 38,5 à son adversaire du Front National. Sondage réalisé hier au lendemain du débat télévisé qui a opposé les deux finalistes et qui montre bien que Marine Le Pen a perdu du terrain face à Emmanuel Macron. Un débat vu en tout cas par 16,5 millions de personnes qui a suscité plus de 3 millions de tweets. Christina Okello, eh bien ce genre de duel, ça vient des États-Unis.
Oui, Philippe, tout à fait. La grande messe de l'élection présidentielle, ce débat serré entre deux finalistes, a d'abord commencé là-bas, aux États-Unis, et ce, depuis 1960, lorsque Richard Nixon et JFK Kennedy s'affrontaient pour la première fois dans un match télévisuel. Ensuite, la tradition a été reprise ici, en France, 15 ans après. Mais outre-Atlantique, les gens ont eu le temps de s'habituer aux joutes verbales et aux coups bas.
Oui, et on se souvient de ceux de Trump avec Clinton, on en reparlera tout à l'heure. Matej Wiśniewski, ce débat Macron-Le Pen a été d'une violence inédite de la vie des éditorialistes. Certains d'entre eux ont vu l'ombre, justement, de Donald Trump derrière la manière dont Marine Le Pen a imposé son style agressif.
Il n'y a pas d'ombre du doute. Marine Le Pen s'est inspirée de la méthode Trump, de sa manière de mépriser ses adversaires politiques, de tout son arsenal de grimaces, d'insinuations, de menaces, d'insultes, de violences verbales. Tout le rhétorique anti-système de Donald Trump, on le retrouve chez Marine Le Pen. Quoique, personnellement, je me demande si Donald Trump ne s'est pas inspiré, lui, de Jean-Marie Le Pen à une certaine époque. Je voudrais signaler qu'en ce contexte, il y a un livre qui sort, c'est Régis Debray qui signe ce titre assez symbolique, « Civilisation, comment nous sommes devenus américains ». Il explique que la France, depuis un siècle, commence à emprunter, à assimiler, par exemple, ce culte pour le couple présidentiel, des éléments de, je sais pas, les primaires, l'effacement progressif entre vie privée et vie publique, tout ça, ça vient quand même de l'Amérique.
Christina Okello.
Et si l'attitude de Marine Le Pen a retenu l'attention, Philippe, c'est parce qu'elle nous rappelle un autre candidat, à savoir Donald Trump. Et pour le professeur Tony Travers de London School of Economics, son débat avec Hillary Clinton a été bien plus violent que celui entre Le Pen et Macron. Écoutons Tony Travers.
I mean, a certain amount of the, you know, the way she expressed herself and the, you know, some of the.
Donc, Tony Travers, il explique que l'élection présidentielle a été très suivie dans la presse anglo-saxonne et ce débat en particulier, car le temps de Le Pen a été très dur. Elle s'était illustrée par sa mauvaise foi. Mais Travers nous rappelle que plus rien ne peut nous choquer après le débat entre Hillary Clinton et Donald Trump, où ces derniers s'étaient servis du passé sexuel sulfureux de l'ancien président Bill Clinton avec Monica Lewinsky pour marquer des points contre Hillary. Donc, il y a une tradition de mauvais coups, peu importe le pays et peu importe le candidat.
Alors, revenons quand même en France, Miguel Martins. Vous avez demandé, vous, son sentiment à quelqu'un qui fréquente modestement la candidate du FN après ce débat. Que vous a-t-il donc dit à la suite de cette rencontre de 2h30? C'était mercredi soir sur les chaînes de télévision.
Voilà, il s'agit d'un restaurant où se rend très régulièrement Marine Le Pen pour y déjeuner. Manuel Domingos, qui est donc portugais, propriétaire du restaurant Chez Tonton, nous disait depuis Nanterre que Macron avait été agressif vis-à-vis de sa rivale. On l'écoute.
Emmanuel Macron fait beaucoup d'agressif vers elle, si, admettait que il fasse.
Donc il disait que Macron, c'était un homme de vieilles idées, ce serait Marine Le Pen qui pourrait changer l'environnement global en France et ramener la paix. Un banquier, c'est d'emblée quelqu'un qui fait dans le profit et qui lorgne sans arrêt vers la poche du voisin, nous disait-il.
Alors cette élection présidentielle est suivie de très près par les partenaires européens de la France. Aujourd'hui, le ministre portugais des Affaires étrangères rencontrait justement son homologue français.
Voilà, Jean-Marc Ayrault, tout à fait. Et Augusto Santos Silva se disait inquiet par rapport à la montée des partis eurosceptiques. Je vous propose de l'écouter.
Nós estamos sempre preocupados com circunstâncias nas quais pode.
Que dit le chef de la diplomatie portugaise? Donc Augusto Santos Silva disait que son gouvernement, évidemment, n'est pas partie prenante dans cette élection. Cependant, dans ce cas particulier, Lisbonne ne peut pas ignorer le fait que l'un des deux candidats, Marine Le Pen, est un programme dont le point numéro un serait la destruction de l'Union européenne et la sortie de la France de ce bloc. Or, le Portugal souhaite que la France reste au sein de l'Union européenne parce que sa place et son rôle au sein du bloc sont une valeur ajoutée. Lisbonne voudrait même que la construction européenne sorte renforcée de ce scrutin.
Alors, je le disais tout à l'heure, les derniers sondages donnent du 62-38. Plutôt 62-38 pour Emmanuel Macron, qui est donc le favori du scrutin de dimanche. Matej Wiśniak, il est considéré comme le vainqueur également du débat, hein, on y revient. Mais il est loin tout de même de faire rêver les Français, c'est ce que disent un certain nombre d'analystes que vous avez lus dans la presse.
Oui, pour moi ça a été passionnant de collecter ces informations, ces avis, parce que ça suffit pas apparemment d'être en marche. Il faut avoir aussi une direction, parce que par exemple, je me rappelle quand j'étais jeune, on marchait vers le communisme en Roumanie et boum, j'en avais marre. Être en marche, ça suffit pas parce qu'il faut penser au-delà du palais de l'Élysée. Le verbe marcher et le substantif marche peuvent parfois réveiller aussi des angoisses historiques. Les marches, c'est la rime parfois avec le bruit de bottes et même avec des terribles moments de manipulation. C'est la connotation militaire de mot marche qui risque de poser un problème. Je pense que peut-être Emmanuel Macron va changer ce nom un peu plus tard. Mais il y a aussi une connotation ultra-libéral, lorsqu'on pousse tout le monde à être en mouvement. C'est un peu comme si on disait, ou tu marches, ou tu crèves. La mondialisation est, elle aussi, en marche, mais pour certains, elle marche un peu trop vite, et ceux qui n'ont plus l'agilité capitaliste nécessaire se retrouvent plutôt en marche. Bref, je crois qu'un jour, Emmanuel Macron devra, comme je disais, changer le nom du mouvement En Marche, car il fait aussi un peu pléonasme, le mouvement En Marche.
Ça, c'est le programme. Il y a beaucoup de choses dans le programme. On va s'arrêter avec vous, Miguel Martins, sur un de ces aspects. Vous vous êtes particulièrement intéressé aux ambitions des deux candidats, hein, et pas simplement aux candidats d'Emmanuel Macron, en matière culturel.
Voilà, on a pu interviewer notamment le directeur du théâtre de la ville à Paris, qui est lusophone, ou encore David Oliveira, qui est le vice-président de la jeunesse du Front National. Il défend bec et ongle la politique culturelle de Marine Le Pen.
Os artistas têm uma visão que é muito negativa do Front National e que é falsa, porque nós não queremos.
Quel est son propos? Voilà, ce responsable du Front National prétend que bien souvent les artistes ont une vision négative de ce parti. Or, c'est une image erronée. On ne veut pas de problème avec les milieux culturels, nous disait-il. Le Front National a une vision un peu plus classique de la culture. L'art contemporain, pour eux, c'est surtout une niche vouée à une élite. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Or, le Front National prétend défendre une vision plus classique de la culture, une culture ouverte au plus grand nombre. Il s'agit là d'une question démocratique, nous disait-il, mais jamais dans leur collectivité locale, que ce soit Hénin-Beaumont ou Fréjus, le Front National prétend restreindre l'accès à la culture, bien au contraire, et prétendre vouloir arriver à un public qui, normalement, n'aurait pas accès à la culture.
Le débat, revenons-y une fois de plus, hein, ça a quand même été le temps fort de cette campagne présidentielle. Matej Wiśniak, c'était le choc frontal entre deux personnes plus qu'entre deux programmes, justement. Alors, est-ce que la télévision a servi la démocratie avant-hier soir?
Mais il y a des gens qui disent que non, parce que justement, il y a trop de spectacles. Et ça, c'est mauvais pour la démocratie. En effet, d'un côté, c'est aussi un exemple mauvais du journalisme. Il faudra peut-être montrer ce débat dans les écoles de journalisme pour dire aux étudiants la démocratie vaut mieux, mérite mieux. L'Europe a une vision sur la dignité des débats politiques un peu plus forgée. Il ne faut pas retourner aux années 30. Donc apprenez, vous les étudiants, à organiser des débats d'une autre manière. Il y a plusieurs livres d'ailleurs que j'ai feuilleté pour voir pourquoi on dit que la télécratie est contre la démocratie. Ça, c'est Bernard Stiegler. Il y a Bourdieu qui disait autrefois que voilà, le spectacle qui donne que de l'adrénaline, c'est pas digne de la démocratie.
Ce qui a été vu aussi par 16,5 millions de téléspectateurs l'autre soir, c'est un débat qui n'a pas été finalement vraiment animé par les deux journalistes
non,
qui étaient présents.
Philippe, le quotidien allemand Die Welt n'est pas du tout tendre avec le deux journalistes en question, affirmant que si le débat a déraillé dès la première minute, cela est en partie dû aux présentateurs qui devaient encadrer les échanges et qui n'ont pas fait. Pour les anglophones comme moi, c'est assez étrange de voir des journalistes rester quasi muets de cette façon, car nous avons grandi dans une culture des journalistes qui n'ont pas peur d'intervenir et à réduire en miettes leurs interlocuteurs. Je pense à des journalistes comme Andrew Marr et Jeremy Paxman de la BBC. Écoutons brièvement cet extrait de Paxman en train d'interviewer l'ancien premier ministre irlandais Martin McGuinness.
Martin McGuinness, what on earth are you doing breaking bread with the head of state of an
occupying power? Philippe, il met tout de suite en évidence la petitesse de façon très subtile de Martin McGuinness, dont il ne donne même pas la fonction. Et ensuite, il enchaîne en posant cette question, comment pouvez-vous rompre du pain avec un chef d'État d'un pays occupé? Tout de suite, ça donne le ton et McGuinness semble embarrassé, sa voix tremble et les questions de Paxman pleuvent sans cesse, toujours de façon subtile. Paxman arrive à mettre McGuinness en difficulté sans même hausser le ton, simplement rappelant le fait et les accords à incohérence de McGuinness qui avait juré de ne jamais rencontrer la reine d'Angleterre. Donc en fait, ce sont des choses simples et efficaces dont Marine Le Pen aurait pu s'inspirer comme modèle.
Oui, c'est un autre style, une autre manière de faire. En tout cas, sur RFI, soirée électorale que j'aurai le plaisir d'animer à partir de 19h30, heure de Paris, ce sera donc dimanche, 5h30 direct avec des envoyés spéciaux, des invités, des politologues, avec aussi les déclarations en direct des deux prétendants, dont l'un sera forcément ravi et l'autre déçu. Résultat, sur le coup de 20h après-demain, ce sera également le cas sur vos antennes, bien évidemment, respectives.
This is Radio France International.
Paris, RFI,
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Et continuons sur la même veine. Ce qui se passe en France suscite beaucoup d'intérêt dans le monde. On le voit quand Barack Obama, par exemple, s'exprime hier pour apporter son soutien à Emmanuel Macron. Matej Wiśniewski, de l'intérêt, il y en a aussi dans d'autres pays de l'Europe de l'Est, comme la Pologne, la Hongrie, dans les Balkans, également en Roumanie. Plusieurs chaînes de télévision roumaines sont à Paris pour couvrir ce deuxième tour.
Oui, c'est très important pour les Roumains, par exemple, parce que nous avons déjà un programme commun pour l'année prochaine, c'est-à-dire une saison culturelle commune, parce qu'on va fêter
entre
un
la
siècle
et la
depuis, oui, la France et la Roumanie, un siècle depuis le traité de Versailles. Et puis, en 2019, la Roumanie va assurer la présidence de l'Union européenne. Donc, il y a déjà une collaboration entre la France et la Roumanie. On voudrait bien que ça continue dans la bonne voie. Donc, on est très pro-Macron.
Cela dit, de manière plus politique, pourquoi est-ce que la Roumanie semble s'intéresser plus à ce scrutin que d'autres pays d'Europe de l'Est?
Ben, vous savez, pour les Roumains, la France a été toujours un sort de modèle. Alors, on a toujours admiré la courtoisie française, même lors des débats. Et voici ce qu'un éditorialiste disait tout à l'heure en Roumanie, sur nos programmes, sur cette page qui tourne en France en ce qui concerne la courtoisie.
Écoutons-le.
Dezbaterile sunt aparent mai vii, mai directe, dar mai puțin substanțiale, cu mai puțină eleganță.
Voilà, il dit donc Mircea Vasilescu, qui travaille pour une revue Le Vieux Dilemme, les débats sont apparemment plus vivants, mais il y a moins de contenu, moins d'élégance. Il dit aussi, à mon avis, ce débat ne s'inscrit pas dans la bonne tradition cartésienne de la culture et du débat politique français.
Alors, dans les anciens pays communistes de l'Europe de l'Est, d'une manière paradoxale, finalement, les leaders de la Pologne et de la Hongrie se sont retrouvés plus dans les propos de Marine Le Pen que dans la vision d'Emmanuel Macron. Expliquez-nous cela.
Oui, parce qu'en ce moment, la Pologne et la Hongrie ont des visions un peu différentes, un peu de repli, et du tout, il y a eu même une sorte de tempête politique là-bas, parce que on s'est dit à un moment donné, et s'il y a un rapprochement entre Marine Le Pen, la Pologne et l'Hongrie pour démanteler l'Europe. Bon, c'est pas l'intérêt des pays de l'Europe de l'Est de sortir de l'Europe, mais quand même, la vision de Marine Le Pen faisait peur.
Alors parlons de l'euro, il en a beaucoup été question entre ces deux tours. Or, Matej, l'adoption de la monnaie commune a eu un rapport direct avec un événement qui s'est passé il y a un quart de siècle dans les Balkans, c'est-à-dire l'éclatement de la Yougoslavie et la guerre en Bosnie.
Oui, il faut rappeler ça. C'est à cette époque-là qu'on a vu à quel point l'euro pouvait être encore divisé parce que la France soutenait la Serbie et l'Allemagne soutenait la Croatie. Heureusement qu'à un moment donné, c'est François Mitterrand et Helmut Kohl qui se sont donné la main et ils ont décidé d'accélérer la création de la monnaie unique, justement en pensant qu'après, l'Europe va s'intégrer politiquement aussi. Ça n'a pas été toujours le cas, mais quand même, l'euro a été accéléré à cette époque-là.
Merci Matthieu Vichniec de la rédaction roumaine. Marine Le Pen est donc présente au second tour avec des projections de voix à 40% environ, 38% selon les dernières estimations. Alors d'extrême droite, populiste, sa progression dans la vie politique française est à l'unisson de ce qui se passe ailleurs en Europe. Le populisme, cette expression d'une frustration sociale, a fait que les Britanniques ont voté pour le Brexit et les Américains pour Donald Trump. Christina Okello.
Oui, mais les sondages se sont trompés sur Brexit et sur l'élection de Donald Trump. Il reste encore beaucoup d'incertitudes quant à l'issue du scrutin ici. Un grand nombre de gens chez les Insoumis, par exemple, se disent prêts à s'abstenir, ce qui pourrait faire gagner Madame Le Pen. C'est ce que raconte le journal Daily Telegraph. Daily Telegraph qui aujourd'hui publie une tribune assez intéressante sur la Premier ministre Theresa May, dans laquelle il la présente non pas comme l'image du populisme, mais au contraire, comme son remède. Voyons, on voit, May a réussi, c'est vrai, à voler la vedette non seulement au parti travailliste, mais aussi au parti UKIP, qui a perdu toutes ses sièges dans les élections locales d'hier. Certes, le parti de l'ancien leader Nigel Farage n'a plus raison d'être, mais selon Florence Raja, une analyste politique, le populisme n'est pas fini pour autant. Écoutons-le.
Que dit-elle ?
En gros, elle dit que le parti conservateur a repris le flambeau de l'UKIP et que toutes les idées de l'extrême droite ont été reprises par les mainstream, les partis traditionnels. Donc, on n'est pas en train d'assister à un quelconque déclin du populisme et pire, à sa consolidation. Encore une fois, il ne faut pas se fier aux chiffres, dit Raja, même si le nombre d'électeurs pour l'UKIP ou l'autre parti nationaliste, le BNP, le British National Party, est en chute libre. C'est parce que ces électeurs vont désormais vers le parti conservateur qui ne fait que répondre à leurs attentes, et à savoir les conduire en dehors de l'Union européenne.
Autre question, pourquoi est-ce que les gens continuent à voter pour les extrêmes?
Parce qu'ils veulent des solutions. C'est ce que raconte Tony Travers, qu'on a entendu tout à l'heure. Il a dit que même si Theresa May a beau se montrer inflexible avec l'Union européenne, même si les gens qui ont voté pour Brexit, en fait, ils veulent des solutions. Et donc, si Theresa May n'arrive pas à apporter des réponses, le populisme va continuer à monter en puissance.
Bien évidemment, la rédaction anglophone de RFI suit tout cela de très près. Merci Christina Okello. Quant à la rédaction en portugais, elle s'intéresse particulièrement au Mozambique, un pays qui a vécu bien des guerres. D'abord une lutte de libération contre la puissance coloniale, le Portugal, puis une longue guerre civile, et puis une paix qui remonte à 92 déjà, mais depuis plusieurs années, un conflit de basse intensité fait rage, notamment dans le nord et le centre de ce pays d'Afrique de l'Est. Alors, Miguel Martins, c'est peut-être maintenant une histoire ancienne ?
On l'espère, Philippe, la prudence est de mise. Cependant, il s'agit quand même d'un nouveau chapitre au Mozambique après une longue période d'instabilité politico-militaire. Même si un accord de cessation d'hostilité avait été paraffé, c'était en septembre 2014, des échauffourées avaient repris depuis, surtout dans les régions proches de l'ancienne guérilla. Or, ce jeudi, c'est le leader de la résistance nationale mozambicaine, la RENAMO, qui par téléphone depuis sa cachette, vraisemblablement dans le centre du pays, confirme une trêve définitive. On l'écoute.
Que dit-il ?
Donc il dit en effet que cette trêve sera différente de la précédente parce que il n'est pas question de prolonger comme à chaque fois ces délais de 60 jours. Il prétend avoir pris cette décision après avoir entendu des hommes d'affaires, qu'ils soient nationaux ou étrangers. À la fin de chaque trêve, les craintes reprenaient le dessus. Là, il est question de redonner de l'espoir au peuple mozambicain.
Miguel, comment expliquer le fait que régulièrement le Mozambique soit victime d'instabilité ?
D'abord, les deux principaux partis se sont opposés par les armes, le Frelimo au pouvoir, soutenu par la Chine, Cuba ou encore l'ancienne Union soviétique. De l'autre côté, la RENAMO, avec le soutien de l'Afrique du Sud, de l'apartheid ou ses alliés. Ce dernier parti, je disais, a depuis la démocratisation et la paix perdu toutes les élections, mais il reste très influent dans le centre et le nord du pays. Il refuse d'accepter la victoire du Frelimo lors du scrutin de 2014, menaçant de s'emparer des provinces où la RENAMO revendique la victoire. Par ailleurs, il s'agit là des régions les plus riches du Mozambique, où des commissariats de police ou d'autres infrastructures ont souvent été prises pour cible.
Autre chose, comment réagissent les Mozambicains et les partenaires du pays à l'annonce de cette trêve définitive?
Voilà, en dépit de tous les atermoiements que le processus de paix a connus, les premières réactions sont positives. Je vous propose d'écouter pour commencer Ernesto Armando, il est le secrétaire général du Parti de la Réconciliation Nationale.
Entendemos que é o princípio para o acordo final.
En substance, que dit-il? Voilà, il dit qu'il s'agit d'une amorce permettant de croire à terme à la signature d'un accord final de paix. Et les partenaires internationaux du Mozambique veulent aussi y croire. On avait notamment écouté Madame l'ambassadeur du Portugal au Mozambique qui parlait d'une très bonne nouvelle.
Merci Miguel Martins de la rédaction lusophone de Radio France Internationale. C'était Accent du Monde. À suivre l'essentiel de l'actualité de la planète sur RFI.